des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour, rayon gamma, facteur epsilon. Aujourd'hui, avec un physicien qui est aussi un philosophe, Bernard d'Espagna, académicien des sciences morales et politiques, dans la section philosophie. Bernard d'Espagna, évidemment, quand on est philosophe et physicien, deux mots grecs, on ne peut qu'être redevable au passé des Grecs.
Oui, certainement. Schrödinger, qui est un très grand physicien du XXe siècle, a écrit un livre qui s'appelle « La nature et les Grecs », dans lequel il souligne le fait que, justement, maintenant, la philosophie et la science sont séparées et qu'il y a un mur et que nous devons remonter ce mur jusqu'aux origines, au moment où ce mur n'existait pas encore. Et ses origines, c'est la pensée grecque.
Et c'est d'ailleurs Thalès de Milet, tous ces gens-là pensaient autant qu'ils trouvaient.
Des gens comme Thalès, oui. Anaximandre, des gens comme ça, étaient à la fois, Démocrite, disons, étaient à la fois des philosophes et des physiciens.
Oui, ça ne se séparait pas, au fond. À quel moment ça s'est séparé? À quel moment il y a eu une scission comme ça, extrêmement nette?
Ça s'est fait progressivement.
Par l'Église, peut-être.
Je dirais qu'Archimède, déjà, était un physicien beaucoup plus qu'un philosophe. Et puis, vous avez eu toute l'école des astronautes d'Alexandrie, n'est-ce pas, qui étaient essentiellement des astronautes et n'ont vraiment pas beaucoup contribué à la philosophie.
Alors, vous dites quelque chose d'étonnant. Là, vous dites que pour vous, il vous semble que les idées d'Aristote sont un peu désuètes aujourd'hui. Alors, pour le père de la métaphysique, qui vient après la physique, comme chacun sait, c'est un peu bizarre quand même, comme jugement lapidaire.
Ah, mais ce n'est pas un jugement lapidaire. Non, c'est un jugement argumenté. Ça vient non pas au début, mais à la fin. Vous voyez, Aristote avait introduit une foule de concepts. Le concept de cheval, le concept d'arbre, le concept, etc. Tout ça, ce sont des concepts. Et il décrit la nature au moyen de tous ces concepts-là. Et il l'a décrit très bien. Il l'a décrit en faisant très attention. Il a fait beaucoup d'observations, énormément d'observations, en biologie en particulier, mais dans tous les domaines. À ce point de vue-là, on peut dire que c'est en quelque sorte le premier des scientifiques, le premier des savants vraiment sérieux, en sens que font vraiment beaucoup d'observations et contrôles, etc. Mais tout ça, c'était qualitatif. Et la grande révolution a été de réduire ces concepts à un tout petit nombre. C'est Galilée qui a fait ça, et Descartes. Ces idées claires et distinctes sont des idées en très petit nombre, n'est-ce pas? Et l'idée donc de Descartes, mais aussi de Galilée et des grands esprits de cette époque-là, les grands scientifiques de cette époque-là, ça a été qu'il fallait, au contraire, décrire la nature au moyen d'un petit nombre de concepts, mais petit nombre de concepts qu'il fallait lier entre eux, et lier entre eux grâce en particulier aux mathématiques.
Et la métaphysique, alors j'y reviens parce que c'est quelque chose, c'est une branche de la philosophie finalement que vous ne... je ne dirais pas que vous ne l'aimez pas, d'abord je n'en sais rien, mais dont vous parlez peu. Finalement, la métaphysique vous intéresse sans doute moins que bien d'autres choses.
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que la métaphysique, c'est certainement la chose la plus difficile qu'on puisse imaginer. Il n'est pas question de faire des démonstrations métaphysiques. Et par conséquent, c'est plutôt un horizon pour moi, la métaphysique. Je dirais que quand je parle de réel voilé, ce qui est le le cas souvent, parce que c'est au fond un peu l'aboutissement de ma pensée, c'est de la métaphysique. C'est la physique qui me suggère cette idée, mais en fait, c'est une idée métaphysique, ce n'est pas une idée scientifique.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais alors, vous avez dit, dans votre enfance, l'un de vos premiers livres a été un livre de mythologie grecque. Donc, déjà, vous vous intéressiez à la mythologie. Quel était-il et quel était votre mythe préféré?
Oh. Quel était-il? Ça, je le vois très bien. C'était un livre écrit par un ami de mon père qui s'appelait Delos, qui était en même temps un illustrateur. C'était essentiellement un illustrateur. Et qui avait ce mérite qui est disparu maintenant, presque, pas tout à fait, mais enfin, presque, de faire une place à la grâce. Et pour moi, ce mélange de grâce et d'imagination était quelque chose qui me séduisait énormément, et où le sentiment qu'il y avait vraiment, que ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire de certaines manières, quelque chose de profond. Maintenant, quel mythe particulier, ça veut un peu oublier, je dois dire.
Le mythe de Paris, si vous avez choisi la grâce.
Non, c'était l'ensemble de la chose. Bien entendu, il n'était pas question de croire à aucun de ces mythes, mais c'était joli, quoi.
Vous n'étiez pas tenté par l'hubris du scientifique, par l'orgueil suprême.
Pas cette affaire-là, non.
Non, pas cette. Et plus tard, vous l'avez été?
Libriste. Non, jamais, au contraire.
Non, jamais.
Au contraire.
Et est-ce que pour vous, d'après vous, le fait que dans l'éducation d'aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui plus exactement, et dans l'éducation d'ailleurs aussi, on élimine de plus en plus les langues anciennes, l'humanisme, puisque celui qui vous questionne dans ce livre a écrit un livre sur l'humanisme, dans le livre sur Candide et le physicien, Claude Salicetti a écrit un livre sur l'humanisme.
Oui.
Est-ce que, en parlant de la disparition peut-être de l'humanisme, est-ce que vous pensez que l'humanisme relève quand même d'une transmission des valeurs léguées par les civilisations grecques et latines, ou est-ce que vous pensez que c'est un ornement de l'enseignement qu'on peut abandonner?
Je pense en tout cas qu'il est essentiel d'enseigner aux enfants qui sont capables de l'absorber ce qui constitue le fond, disons, de l'humanisme, disons, de la grande littérature, mais pas seulement de l'Antiquité, de la grande littérature, en particulier la grande littérature française, depuis les origines jusqu'à maintenant. Et je constate avec stupéfaction et désolation que ce n'est plus le cas, que nos petits-enfants savent à peine qui était Alfred de Vigny ou Flaubert, ou à peine s'ils ont entendu parler de Shakespeare, et ce qu'on leur présente, même en classe de lettres, n'a rien à voir avec tout ça.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a plus transmis les fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que les mots n'ont pas perdu leur sens du jour? Vous avez parlé tout à l'heure de profanes, vous avez parlé de la science et des profanes, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que ça donne une note un peu religieuse, puisque le profane, c'est celui qui est devant le temple, profanum.
Mais
je le rappelle à ceux qui l'ont oublié. Donc, le sens des mots, précisément, là c'est intéressant, nous entendons cela, d'autres qui n'auraient pas fait de latin ne l'entendent pas, non pas qu'ils soient plus stupides bien sûr, mais ils n'entendent pas la même chose. Est-ce que peu à peu, à force d'oublier le vrai sens des mots et la vraie origine du premier questionnement grec, parce que ce qui est quand même original chez les Grecs, mais Shakespeare est un héritier des Grecs en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même la question. Les Grecs ont été les premiers à dire pourquoi. Pourquoi si, pourquoi ça, qui est la question des Occidentaux. Donc est-ce qu'en oubliant, en effaçant le sens de cette question, en faisant table rase de ce souvenir-là, est-ce qu'on ne condamne pas les enfants dans l'avenir à oublier?
Eh oui, je pense que vous avez en grande partie raison. Je pense qu'il conviendrait de remettre à l'honneur à la fois cet enseignement dont je vous parlais de la véritable littérature, pas seulement ces lignes, mais la grande littérature des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, et corrélativement, effectivement, des notions suffisantes de grec et de latin, enfin de littérature grecque et de littérature latine.
Est-ce que ça vous a aidé d'avoir une formation classique dans vos recherches, dans votre méthode ?
Je pense que oui, mais sans vraiment pouvoir réaliser pourquoi. Je pense que ça m'a aidé à avoir une certaine ouverture sur les questions. Mais cela dit, ce n'est pas en cela que avoir vraiment appris à faire des versions latines ou des versions grecques ou des thèmes latins ou des thèmes grecs est très utile. Je suis content d'en avoir fait parce que, malgré tout, c'est pas mal de connaître l'origine des mots et d'être capable de repérer l'origine des mots et de corriger des abus de langage comme celui que vous avez cité, et du côté des Grecs, de connaître effectivement les racines grecques. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui me paraît fondamental. Si bien qu'il me semble que imposer, par exemple, comme l'avait suggéré Jacqueline de Romilly, si je comprends bien, qu'on revienne à un enseignement du grec systématique dans les collèges et les lycées, qui serait donné à n'importe qui, ça me paraît peut-être un peu utopique.
Vous savez que
ce serait bien en principe, mais
vous savez qu'en Italie, les résultats des liceo classico en sciences est 3 fois meilleurs,
oui,
que les lycées où il n'y a pas de lettres classiques en sciences. Les résultats, oui, pour les jeunes élèves de sciences. Donc peut-être l'utopie de Jacqueline de Romilly n'est-elle pas tout à fait...
Mais, quand j'étais moi-même élève au lycée,
oui,
c'était les classes de lettres où on retrouvait les meilleurs élèves. Les moins bons ne faisaient pas de grec, les encore moins bons ne faisaient ni latin ni grec, les meilleurs faisaient les deux.
Alors pourquoi en priver les jeunes générations?
Oui, seulement à l'époque, oui, d'accord, seulement à l'époque, n'accédait au lycée qu'une fraction très faible de la population.
C'est vrai.
Maintenant, vous avez toute la population qui, en principe, doit accéder au lycée, y compris donc des enfants dont la culture familiale est tout à fait éloigné de ce genre de choses. Et alors...
Pourquoi les en priver, dirait Jacqueline de Romilly?
Pardon?
Pourquoi les en priver, dirait Jacqueline de Romilly?
Non, bien sûr, s'ils sont capables d'absorber ça et le reste,
oui,
alors il ne faut pas les en priver, bien sûr.
Alors j'aurais une dernière question un peu provocatrice. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'un homme de l'époque de Socrate, qui se posait la question du « connais-toi toi-même » est bien plus proche de nous que ce chercheur contemporain qui nous demande de, je cite, « trouver toute naturelle l'idée qu'aucun objet solide ne conserve sa dimension quand il est mis en mouvement ». Celui-là nous paraît bien plus lointain, bien plus incompréhensible que Socrate quand il dit « connais-toi toi-même ».
Ah, bien sûr, il est... plus incompréhensible en ce sens qu'il surprend davantage. Bien sûr, il surprend davantage. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, quelquefois, d'être surpris par des choses qui, apparemment, paraissent bizarres? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que, un beau jour, Copernic ait dit « Non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, le soleil est plus gros que la Terre, et c'est la Terre qui tourne autour de lui. » Ça paraissait scandaleux, bizarre, étrange, vous voyez. Ça a surpris les gens. De même, avant ça, l'an 1000, quand les gens ont dit « les antipodes existent », ça paraissait absurde. Il y avait des gens qui marchent la tête en bas, c'est imbécile. voyez, mais je pense que ce vent de surprise, finalement, permet aux gens de dépasser des vues simplistes et inadéquates, quoi, fausses.
Socrate n'aurait pas dit mieux. Merci Bernard d'Espagnac.